vous accueillir et merci à Avi de m'avoir donné beaucoup d'éléments de l'IMOOD pour préparer cette étude. Et puis je voudrais aussi remercier Pénina Bicou qui n'est pas là ce soir mais qui m'a aussi beaucoup appris et beaucoup formé pour pouvoir aborder les textes. Alors, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que je vais essayer d'aborder le sujet de façon un peu générale pour qu'on ait une vision aussi étendue que possible de ce qu'a été cette période des Hashmonaïm à l'époque du Second Temple. Mais bien entendu, il y aura forcément quelques lacunes, quelques zones d'ombre, et donc c'est parce que c'est pas forcément évident de tout aborder en une soirée. Je vous cache pas que le sujet est passionnant. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans la préparation, je me trouvais des questions et je ne trouvais pas forcément les réponses. Donc ce sera l'occasion évidemment après la présentation d'échanger et de partager sur nos connaissances respectives. Donc je vais aborder les choses de la façon suivante. Je vais d'abord commencer par présenter ce qu'était l'exil grec, parce que ce n'est pas un exil comme les autres et il faut passer quand même un petit moment à expliquer quelle est la notion d'exil grec, qu'est-ce que ça recouvre. Puis un temps sera consacré à présenter l'histoire de cette période des Hashmonaïm, tant la période de Hanouka que ce qui s'est passé avant et surtout ce qui s'est passé après, qui est en général moins bien connu quand on évoque cette période. Et puis il y aura un temps pour étudier quelques textes qui vont poser la question concrètement de qu'est-ce qu'a été l'exercice du pouvoir par les Hashmonaïm, les Hasmonéens, et quels problèmes cela a posé. Donc pour préparer ça, il y a à la fois en source, il y a à la fois des extraits du Talmud, des extraits de commentateurs et quelques ouvrages que j'ai apportés, je voudrais vous montrer qui sont excellents. Celui-là, il y a un vieil ouvrage, Histoire du peuple juif de Salomon Grezel, qui est une mine d'or pour comprendre la période qui suit antérieure au Second Temple, postérieure au Second Temple, donc beaucoup d'éléments. Et aussi ce livre de Benno Gross, Que la lumière soit, qui est une traduction, interprétation de Ner Mitzvah du Maharal de Prague, et qui a permis de diffuser la pensée du Maharal de Prague en langue française. Alors, j'aurais commencé par effectivement poser la question de qu'est-ce que c'est que cet exil grec et en quoi est-il paradoxal ? Ben, il est paradoxal parce que la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à réfléchir sur l'exil grec, c'est mais pourquoi c'est un exil alors que le peuple juif est sur sa terre et alors que le temple est toujours debout ? En quoi c'est un exil ? Donc déjà, il a quand même une différence fondamentale par rapport à l'exil de Babylone ou l'exil de Rome où les juifs ont été chassés de leur terre et où le temple a été détruit. Là, le temple est debout, les juifs sont sur leur terre et pourtant on parle d'exil. Quelle est la particularité de cet exil ? Eh bien, on va voir qu'il y a des éléments bien sûr spirituels et c'est tout le cœur du sujet de Hanouka, mais je voudrais l'aborder en commençant par présenter cette identification de l'exil grec qui a été faite par le Maharal de Prague au travers du songe de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple, et de la vision de Daniel. Daniel a une vision, la vision de quatre animaux, et cette vision de ces quatre animaux représentait les différentes formes d'exil qui ont été interprétées comme étant respectivement l'exil de Babylonie, l'exil de Perse, l'exil de Mède et l'exil grec. Donc la Grèce est clairement identifiée à un exil au travers du songe de Daniel qui est relaté dans le livre de Daniel. Toujours dans le même livre de Daniel, le roi Nabucodonosor fait un rêve où il voit une statue avec quatre composantes. Et ces quatre composants de la statue vont se désagréger parce qu'une pierre va venir bousculer la statue et la renverser. Et il va demander à Daniel, va demander à ses magiciens d'interpréter les rêves qu'ils ne pourront pas faire. Et c'est Daniel qui va être retenu pour interpréter le rêve et qui va lui expliquer que les quatre composants de cette statue correspondent à quatre formes d'exil. Et chacun ayant des forces supérieures à l'exil qui le précède. Et là encore, l'exil grec est clairement identifié par Daniel. Il correspond à l'une des parties du corps de cette statue. On a également une référence à l'exil grec qui est apportée. Alors, avant de venir là, donc, les quatre exils sont identifiés, on est à l'époque postérieure au premier temple. On n'est pas encore à l'époque de l'exil du Second Temple, et le texte aurait été écrit à l'époque de la période des Hashmonaïm, mais donc à ce moment-là, l'exil de Rome n'est pas encore clairement identifié. On a Babylone, la Perse, les Mèdes et l'exil grec, mais l'exil de Rome n'est pas encore identifié. Et un peu plus tard, on a ce commentaire de Resh Lakish sur le premier verset de Bereshit, Ve'aretz haïta tohu vabohu, ve'rocher alpeneteom. Et les quatre mots-clés de ce verset de Bereshit sont identifiés par Resh Lakish comme étant une allusion aux quatre exils. Mais cette fois-ci, Mèdes et Perses sont fusionnés, c'est le deuxième exil. Babylone est toujours le premier exil. Le troisième exil correspond au mot rocher, les ténèbres, c'est l'exil de Grèce. Et le quatrième exil, qui est nouveau par rapport à ce qu'on savait avant, c'est l'exil de Rome, qui est à ce moment-là clairement identifié, puisqu'on est à l'époque postérieure à la destruction du temple. Donc, deux visions de l'exil, avec l'introduction de Rome comme étant une source, comme étant un exil. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'exil de Grèce est déjà clairement identifié, que ce soit à l'époque de la vision de Daniel ou à l'époque de la chute du Second Temple. Donc, en quoi s'agit-il d'un exil ? Il est identifié, mais en quoi est-il un exil ? Et surtout, si on pense que la rencontre au départ entre les Grecs et les Juifs s'est plutôt bien passée, puisque Alexandre le Grand, quand il est arrivé en Orient pour conquérir les pays d'Orient, quand il est arrivé en Judée et qu'il s'apprêtait à détruire le temple, il a rencontré le Cohen Shimon. Et la rencontre s'est plutôt bien passée et la situation s'est retournée et il n'a pas détruit le temple. Et il a même accédé aux faveurs des Juifs qui lui ont demandé de préserver leur spécificité et de pouvoir maintenir leur culte et il a accédé à ces demandes. Donc la première rencontre entre Jérusalem et Athènes, entre Alexandre et les représentants du peuple juif, s'est bien passée et il n'y a pas eu de problème particulier propre qui aurait suivi cette nouvelle conquête. Les choses commencent bien. Quelques temps après la mort d'Alexandre, ses descendants prennent la suite. Et l'un des successeurs d'Alexandre, s'appelle Ptolémée, va vouloir faire traduire la Bible en grec. Et c'est là qu'arrive l'événement qu'on connaît sous le nom de la Septante. Il va réunir 70 sages, ou 72 selon les versions. Et chacun des sages va avoir la même traduction de la Bible, alors qu'ils ont tous travaillé de façon isolée. Et que rien n'aurait laissé penser qu'ils arriveraient à la même traduction. Et donc, les sages interprètent différemment, ont une interprétation un peu paradoxale de cet événement de la Septante. Il y a une vision positive qui consiste à dire que si la Torah a pu être traduite par 70 sages et aboutir à la même version, c'est que Dieu a validé ce projet de traduction. Un autre aspect, c'est de dire que la bénédiction que Noah a fait à Yafet lorsqu'il l'a recouvert du manteau, lorsqu'il s'était dénudé dans sa tente, l'une des bénédictions qu'il a accordées à Yafet, c'est justement que l'on puisse traduire la Torah en grec. Donc là encore, une vision positive de cette traduction de la Torah en grec et donc de cette proximité entre la civilisation grecque et la civilisation juive. Mais d'un autre côté, les sages ont été très inquiets au moment de la traduction de la Torah en grec, parce qu'ils se sont dit, et d'ailleurs ils ont même institué une journée de jeûne, et ils se sont dit, le problème c'est qu'on va retirer l'essence de la Torah en faisant cette traduction trahison, et on risque de dénaturer l'accès au texte et la lecture et l'accès à la profondeur du texte à travers la traduction. Donc ils ont accueilli cette traduction de façon mitigée. Donc tout ça pour dire que au départ, on a une rencontre entre les Grecs et les Juifs qui se passe bien. On a même une volonté des Grecs de s'approprier, de connaître la loi juive, la Torah, et qui pousse à la traduction. Et cette traduction se passe sous les meilleurs auspices puisqu'on a une version unique. Mais petit à petit, les choses vont se dégrader. Comment vont-elles se dégrader ? Alors ce qui se passe, alors la Septante, c'est à peu près en moins 250. Et ce qui se passe quelque temps, ce qui se passe après au fil des années, c'est que les Juifs, ou les Judéens, si vous préférez, vont être réceptifs à la culture grecque et à tous les apports de cette civilisation. Parce qu'on a pour la première fois dans l'histoire une civilisation qui émerge et qui se caractérise par les forces de l'esprit et par sa volonté de comprendre le monde, de le rationaliser et en même temps de lui apporter des éléments culturels et de beauté que n'avaient pas les civilisations jusqu'alors. Et tout ça est très très attrayant pour les Juifs qui ont vécu pendant à peu près 200 ans après le retour d'exil de Babylone dans une certaine autarcie, dans les traditions, mais avec peu d'influence extérieure. Là, la civilisation grecque va apporter des éléments extérieurs extrêmement riches et de haut niveau culturel, et ceci va séduire les Juifs qui vont petit à petit adopter les us et coutumes de la culture grecque, tout en restant juifs, mais en prenant des traditions, le sport, les vêtements, les noms. Et on arrive peu à peu à ce qu'on appelle l'hellénisation. On a des juifs qu'on dit hellénisés, qui ont adopté les coutumes grecques, tout en restant juifs, mais qui petit à petit se sont appropriés les éléments de la civilisation grecque. Quel est le problème, au fond, avec cette civilisation grecque ? Parce que c'est une civilisation qui se caractérise par les forces de l'esprit, par son souhait de comprendre le monde, de rationaliser et donc de dépasser une compréhension superficielle des choses. Donc en ce sens, elle est quand même assez proche du judaïsme, qui se caractérise aussi par sa volonté, plus fort que le glaive et mon esprit, et par sa volonté de mettre l'esprit au-dessus de tout et de dépasser les contingences de la matière. Donc jusque-là, on a une proximité entre la civilisation grecque et la civilisation juive. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même, au-delà de cet aspect-là, il y a quand même quelques points de rupture. C'est que pour les Grecs, l'esprit domine la matière, mais les deux sont déconnectés. Et il n'est pas envisageable pour les Grecs que la matière puisse être source de spiritualité. Qui est le contraire de la vision juive, pour qui, au contraire, la matière est une source de spiritualité, qu'il faut bonifier la matière pour en extraire la spiritualité. L'autre aspect où il y a une divergence quand même assez forte entre les Grecs et les Juifs, c'est que chez les Grecs, justement, il y a cette déconnexion entre l'esprit et la matière, entre le spirituel et le corporel, c'est qu'il y a un discours, il y a une philosophie qui sont très, très de haut niveau et qui poussent les valeurs assez haut. Mais d'un point de vue social, la civilisation grecque se caractérise quand même par beaucoup d'inégalités. Il vaut mieux être bien né dans la Grèce antique, il vaut mieux être citoyen grec qu'autre chose, parce que les métèques, les esclaves, les femmes, les enfants n'ont pas vraiment droit au chapitre dans la cité grecque. Et en ce sens, là aussi, on a une différence quand même assez profonde avec le judaïsme, qui pousse quand même à une certaine égalité, à une reconnaissance du statut de l'esclave, du statut de la femme, et qui vise à une harmonie entre les humains et à ne pas entretenir une civilisation, une société de hiérarchie. Au contraire de la civilisation grecque. Et l'autre aspect encore de divergence entre les Grecs et entre la civilisation grecque et la civilisation juive, c'est la reconnaissance divine. Pour la Torah, bien sûr, Dieu unique, transcendant, infini. Et l'homme porte d'ailleurs en lui une étincelle divine, il porte le Tselem Elohim. Pour les Grecs, il n'y a pas de place pour un Dieu unique. On est dans un polythéisme, on est dans une situation où des humains sont, c'est plus une divinisation d'humains, où chacun porte des caractéristiques propres, avec l'expression même de certains caprices. Mais on n'est pas du tout dans un face-à-face entre l'humain et Dieu, qui est du même nature que le face-à-face entre l'humain et Dieu qu'on a dans la vision juive. On a un polythéisme qui ne pousse pas à ce que l'humain exprime l'infini qui est en lui par rapport à sa relation avec Dieu. Donc tout ça pour dire qu'on a une civilisation qui ressemble sous certains aspects à la vision juive du monde, mais qui en diverge quand même sur beaucoup d'autres, et pas des moindres, parce qu'on touche à des choses essentielles comme la foi en un Dieu unique et comme la notion de la capacité du matériel à porter du spirituel, ce que ne reconnaissent pas les Grecs. Et en ce sens, c'est là que les Grecs vont avoir une politique, au moment où ils vont occuper la Judée, de s'en prendre au fondement spirituel du judaïsme et à empêcher que les Juifs, par leur pratique, expriment cette capacité de la matière à donner du spirituel. Et la fête de Hanouka, qui est très marquée par l'huile, exprime parfaitement cette idée, puisque l'huile, c'est la quintessence de ce que la matière peut donner comme support pour le spirituel. C'est à partir de l'huile que l'on fait brûler une lumière. Et l'allumage de la Hanoukia, de la menorah, c'est pas un allumage technique d'allumer une lumière, c'est de faire monter la lumière qui est incluse dans la matière. Dans le parashat Bealotra, c'est Bealotra et Taner, tu feras monter la lumière. Béalotra, qu'on lit d'ailleurs à Hanouka. Donc tout ça pour poser un peu le décor de ce face-à-face entre la civilisation grecque et les juifs, et comprendre en fond ce qui les a rapprochés, mais ce qui les fait diverger. Et ce qui nous amène petit à petit à mieux comprendre après ce qui va se jouer à Hanouka. Donc à l'époque de Hanouka, on est un peu plus loin dans l'histoire, on est à peu près en -170. Les tensions qui fracturent la société juive entre justement les juifs, il y a des juifs qui ont adopté les coutumes grecques et qui sont juifs hellénisés, puis des juifs qui au contraire restent dans les traditions et ne veulent pas entendre parler de coutumes grecques, ne veulent pas adopter les juifs et coutumes, aller au stade, les coutumes sportives, le théâtre, tout ça, ça ne les intéresse pas. Des tensions animent la société juive de l'époque. Et petit à petit, ces tensions prennent une certaine importance. Et à un moment, le souverain Séleucide, donc descendant d'Alexandre, qui a le pouvoir en Judée, Antiochus IV, va décider, pour en finir avec ces tensions au niveau du peuple, d'imposer par la force la civilisation, d'imposer par la force la vision grecque de la civilisation. Et c'est là qu'on a les décrets qui interdisent de respecter le Shabbat, de pratiquer la Mila, de réciter la bénédiction du mois. C'est là qu'on a tous ces décrets infâmes qui touchent à l'essence des pratiques juives et qui vont profondément heurter, blesser les juifs pratiquants qui ne peuvent plus pratiquer les mitzvot de façon libre. C'est là qu'on a des choses extrêmement violentes. Hein. On a beaucoup de juifs qui préfèrent mourir en martyr que de sacrifier un porc à une idole ou que de transgresser Shabbat. C'est là qu'on a le martyr de Hana et ses 7 fils. C'est là qu'on a aussi l'héroïsme de Judith, qui est une veuve qui vivait à Béthulie et qui va aller intriguer réussir à trancher la tête du général Holoferne. Et en ce sens, donc, elle veut montrer qu'une révolte doit avoir lieu, et elle s'en prend aussi à toutes les violences qui sont faites aux femmes à ce moment-là par les Grecs. Donc on a comme ça une situation très explosive qui déclenche en -160, qui va trouver son expression et qui va se cristalliser en -168, quand à Modi'in, les Grecs demandent à un juif de sacrifier un porc sur un autel. Un juif hellénisé s'apprête à le faire, ou le fait plutôt, et là il est attaqué par Matityahu et ses 5 fils, une famille de Kohanim, qui refuse, qui dit non, là c'est plus possible, et qui vont aller donc du coup, à partir de cet événement un peu fondateur, soulever une révolte au sein du peuple juif, d'abord de leur village, et puis petit à petit les rangs vont grossir autour de Matityahu et ses 5 fils. Alors ce qui se joue là, c'est la cristallisation de cette révolte, et puis on a après en quelques années la reprise du pouvoir par les Hashmonaïm, avec différentes guerres, différentes victoires militaires qui se succèdent et qui permettent aux Hashmonaïm de reprendre le terrain et d'arriver à Yerushalayim, de rentrer dans le temple, de le purifier, de rallumer la menorah et de restaurer la souveraineté juive sur Jérusalem. Et là on est donc à l'époque de Hanouka, et grosso modo, les événements qui se passent à Hanouka, ce qui se joue à Hanouka, durent à peu près 3 ans, on va dire, de -168 au moment où ce sacrifice a lieu, jusqu'au 25 qui se lève de -165, quand les Hashmonaïm réussissent à rallumer la menorah dans le temple avec le miracle de la fiole qui a duré 8 jours. Ça, c'est tout l'avant-propos pour présenter l'exil grec et ce qui s'est passé à Hanouka. La politique juive des Maccabim commence juste après. Et Hanouka n'est qu'une infime partie de l'histoire des Maccabim et Hashmonaïm, et on va voir que c'est une histoire très riche et extrêmement passionnante, et qui est extrêmement riche d'enseignements justement sur ce que les Juifs ont fait quand ils étaient dans cette période d'exil. Alors, ce que je voudrais déjà préciser, c'est que la problématique à laquelle qui va centrer un petit peu le sujet, c'est le cumul de fonctions de Kohen Gadol et de roi qui prévaut à l'époque des Hashmonaïm, mais qui n'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Il faut distinguer, dans la dynastie des Hashmonaïm, il faut distinguer plusieurs générations. La première, donc d'abord il y a Matityahu le grand prêtre, ses cinq fils, et la première génération donc est constituée de ses cinq fils. Parmi ces cinq fils, on en a trois qui vont prendre le pouvoir. Les deux autres vont mourir dans différents combats. On a Yehuda, Jonathan et Shimon. Ce sont ces trois-là qui vont prendre le pouvoir et les deux autres vont mourir dans des combats. Il faut bien avoir conscience qu'après les événements glorieux de Hanouka, le combat continue et qu'il y a encore des frontières à défense, qu'il y a encore des attaques des troupes séleucides. Donc les fils de Matityahu continuent à se battre sur divers fronts dans les frontières, autour des frontières de la Judée de l'époque. Alors, tout commence avec le premier d'entre eux, avec Yehuda Maccabi, qui est reconnu comme étant le chef charismatique, le leader charismatique qui a porté la révolte, qui est le combattant militaire. Et donc, petit à petit, on lui reconnaît le leadership et c'est lui qui prend un peu de fait la direction des rebelles. Mais il n'est ni roi ni grand prêtre. Il est juste chef militaire qui, de fait, prend des fonctions un peu politiques. Mais à cette époque, la souveraineté juive n'est pas encore complètement rétablie. C'est encore un peu bancal. Il va mourir dans un combat vers -161 et c'est son frère Jonathan qui va prendre la suite. Son frère Jonathan va lui aussi avoir à mener des combats pour affermir les frontières de l'État de la Judée à l'époque. Et au début, il est reconnu comme guide politique en fait du peuple. Mais petit à petit, on lui attribue également la fonction de grand prêtre. Donc ça commence à Jonathan en fait, la prise de la fonction de grand prêtre au niveau des Hashmonaïm. Yehuda, lui, n'était pas grand prêtre. Il y avait un autre grand prêtre qui était à l'époque en fonction. Et alors pourquoi Jonathan devient-il grand prêtre? Parce que le grand prêtre de l'époque n'était pas vraiment à la hauteur de sa fonction en fait. On avait un problème avec les Kohanim, avec les grands prêtres, qui en fait étaient des personnalités très puissantes hein, pour le peuple juif, parce que au retour de Babel, le peuple juif n'a pas de roi, et finalement qui va être guide, qui va prendre la direction du peuple juif, c'est le Kohen Gadol et c'est les sages, les scribes et tous les guides spirituels qui tournent autour de la fonction du grand prêtre. Et donc le grand prêtre prend un rôle, a bien sûr son rôle spirituel, mais il a aussi un rôle politique de plus en plus important avec le temps qui s'écoule. Donc Jonathan est grand prêtre. Lui aussi, donc il est à la fois grand prêtre et militaire, il va mener des opérations militaires pareil pour consolider les frontières. Et il va mourir lors de combats. Il meurt donc en -142. Vous avez en page 2 toute la chronologie de cette période. Donc je prends quelques dates clés pour mettre les choses en relief. À la mort de Jonathan, un autre fils va prendre le pouvoir, c'est Shimon, qui va être très rapidement désigné comme grand prêtre par la Grande Assemblée qui siégeait à l'époque, la Grande Assemblée qui est l'ancêtre, si on peut dire, du Grand Sanhédrin, et qui va désigner Shimon comme grand prêtre et lui accorder également la fonction d'ethnarque. Et la Grande Assemblée va préciser que cette nomination de Shimon, à la fois comme grand prêtre et comme ethnarque, se fait par défaut. Par défaut, parce que d'abord, on n'a pas trouvé de descendants issus de la lignée davidique officiellement reconnus qui puissent devenir roi, et on n'est pas non plus à l'aise avec le grand prêtre qui était en fonction, enfin qui aurait pu, la personne qui aurait pu être grand prêtre parce qu'il est descendant parce qu'il est le fils de Onias, un précédent grand prêtre. Donc, par défaut, finalement, c'est Shimon qui devient à la fois grand prêtre et guide du peuple, et la Grande Assemblée précise que cette désignation, elle est conditionnelle jusqu'à ce que se lève un véritable prophète. Donc, tout ça pour dire que, au cours de cette première génération, quand se met en place cette dualité de fonction de guide, de chef politique et de grand prêtre, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il y a une transition. Et au moment où Shimon est nommé, la Grande Assemblée a conscience qu'elle fait quelque chose qui est un petit peu une entorse. Et donc, elle précise que c'est de façon provisoire jusqu'à ce qu'on trouve le véritable prophète à même de prendre la fonction. Alors, Shimon va régner, donc va être grand prêtre et chef ethnarque jusqu'en -134. Et avec lui, avec sa mort, s'éteint la première génération de Hachmonaïm et va lui succéder une seconde génération. Cette seconde génération, elle est différente de la première puisqu'elle n'a pas participé au combat de libération du pays. Elle est déjà beaucoup plus installée, les frontières du pays sont déjà un peu plus sûres. Donc on va inaugurer une nouvelle ère dans la vie politique et militaire des Hachmonaïm avec cette seconde génération. Le fils de Shimon, donc, est représentant de cette seconde génération. Il s'appelle Jean Hyrcan. Je ne suis pas sûre du nom en hébreu. Je pense que c'est Yohanan, c'est ça. Il va régner quand même assez longtemps. Hein, ça va durer de moins 134 à moins 104. Et il va inaugurer une phase d'expansion territoriale. Et là, ça c'est très intéressant. On va passer d'une situation où les Hachmonaïm étaient là pour défendre les frontières à une situation où il s'agit d'étendre le territoire. Et qui dit étendre le territoire dit se confronter à des peuples, à des ethnies qui ne sont pas judéennes. Et donc la question se pose de qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et ça va aller jusqu'à quelque chose qu'on... Moi j'ai découvert, hein, je ne pensais pas que ça avait eu lieu. Bah, c'est que ces populations, on va les expulser pour faire venir des populations judéennes à leur place. Ou alors, quand on rencontre la population iduméenne, des descendants de Édom, on lui propose de se convertir. Et les iduméens vont se convertir. Donc ce sont des juifs convertis, franchement convertis par le voilà, sous l'effet de ce pouvoir des Hachmonaïm. Dans l'ensemble, le règne de Jean Hyrcan a été relativement paisible, mis à part cet aspect de conquête territoriale. Il n'y a pas de tension sociale, politique majeure à son époque, et ça dure à peu près 30 ans. Flavius Joseph considère que c'est quand même à cette période que vont naître les deux grands partis qu'on va retrouver après tout au long de l'histoire du Second Temple, les pharisiens et les sadducéens, en hébreu Perushim Tzedukim. Pharisiens, Perushim, parce qu'ils prônent la séparation justement des fonctions, le fait de garder les traditions, le fait de ne pas imposer le judaïsme par la force mais par la persuasion, ça c'est la vision des pharisiens. Les sadducéens, Sédoukim, eux, sont beaucoup plus proches du pouvoir, plus militaires, plus dans la dimension de l'expansion territoriale. On ne va pas dire que ce sont les libéraux et les orthodoxes, ce n'est pas aussi simple que ça. Tous les deux sont dans le souhait de maintenir les traditions, mais avec une façon différente de le faire. Les pharisiens sont plus dans l'esprit, les descendants des scribes, donc dans la sagesse, dans l'étude, dans la persuasion. Les sadducéens sont plus dans la force militaire et l'exercice du pouvoir. On peut dire aussi, pour illustrer les différences, qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que les sadducéens sont attachés à la Torah écrite. Les pharisiens reconnaissent la Torah orale et toute la transmission orale qui est véhiculée par les sages. À l'époque, elle n'a pas encore été mise à l'écrit, donc c'est le bouche à oreille qui prévaut. Et les pharisiens reconnaissent cela, mais les sadducéens ne le reconnaissent pas. On peut aussi dire que pour les pharisiens, la Torah est centrale et elle permet de consolider le peuple, la nation. Pour les sadducéens, c'est la nation, le territoire qui sont centrales et la Torah permet d'être un ferment, un liant, mais elle n'est pas centrale comme la nation et le territoire. Voilà en quelques mots les différences qui fracturent les pharisiens et les sadducéens qui naissent à l'époque de Jean Hyrcan, mais qui ne vont pas encore s'exprimer de façon violente. Le règne de Jean Hyrcan est considéré comme relativement paisible sur ce plan-là, et il est surtout marqué par une expansion territoriale, des conquêtes, la conversion des Iduméens, etc. Et avec lui, à sa mort, s'achève la deuxième génération des Hachmonaïm. On est à peu près en moins 104. À la troisième génération, les choses vont évoluer de façon assez importante. Vous avez un arbre généalogique qui montre un peu comment où on en est. Vous avez donc Jean Hyrcan, donc les autres, les frères de Jean Hyrcan, Matityahu et Yehuda, on n'en parle pas. Les fils de Jean Hyrcan dont on va parler sont au nombre de... Il a quatre fils, dont deux vont exercer le pouvoir et deux autres vont être... l'histoire ne va pas retenir grand-chose d'eux. Les deux dont on va parler ensuite, c'est Aristobule Ier et Alexandre Janaus, ou Alexandre Janet, ou Alexandre Yohanan, ou Alexandre Yanaï dans le Talmud. Alors, avec cette troisième génération, beaucoup de choses vont évoluer de façon assez sensible. Tout d'abord, Aristobule Ier, donc le fils aîné de Jean Hyrcan, va prendre le pouvoir et lui va s'attribuer la fonction de roi en titre. C'est avec lui que ça commence. Et avec la prise de pouvoir et la fonction de roi, va se matérialiser le fait qu'il a peur, évidemment, il a peur qu'on lui prenne le pouvoir, donc il va emprisonner ses frères pour ne pas risquer de se faire renverser. Il est marié, il va se marier avec Salomé Alexandra, dont on va parler ensuite, la reine Ushlam Tzion en hébreu. Le mariage ne va pas durer très longtemps et Alexandre et Aristobule Ier va mourir assez vite, au bout d'un an ou deux de règne. Mais son règne est quand même relativement despotique. Il enferme ses frères. C'est pas un roi particulièrement bienveillant. Sa femme reste veuve et il n'a pas d'enfant de ce mariage. Donc un ibum est fait avec Alexandre Janet, l'un des frères qui était emprisonné et que Salomé Alexandra va libérer à la mort de Aristobule Ier. Et donc elle va se marier avec Alexandre Janet qui était, dit-on, de 15 ans plus jeune qu'elle. Alors Alexandre Janet, alors on va beaucoup en parler parce que son règne a été assez long. Si vous regardez, il a régné à peu près 27 ans. Et deux fils vont naître de cette union avec Salomé Alexandra, dont on parlera plus tard, Jean Hyrcan II et Aristobule et Judas Aristobule. Quelles sont les caractéristiques du règne de Alexandre Janet? Vraiment beaucoup de choses. Et à commencer par le fait que non seulement donc il va poursuivre la politique d'expansion territoriale de Jean Hyrcan, mais qu'en plus lui va reprendre aussi le fait d'être roi, donc il va s'arroger le titre de roi. Et on va trouver sur des pièces qui ont été frappées à l'époque la figure de Alexandre Janet avec écrit Basileus Alexander. Donc Basileus, c'est le roi byzantin, c'est la figure du roi byzantin. Donc il faut dire qu'il était roi. Donc, l'archéologie confirme ce que les écrits nous disent. Et il va exercer le pouvoir de façon assez tyrannique. Il va évidemment s'arroger, il va plutôt, ceux qui sont proches du pouvoir sont les Sadducéens, il va être assez violent et assez critique vis-à-vis des pharisiens qui expriment une force d'opposition qui ne lui convient pas. On a deux illustrations de cette opposition assez farouche avec les pharisiens. Alors, la première, c'est une anecdote qui est relatée justement dans l'histoire du peuple juif qui est assez incroyable. Donc Alexandre Janet, je rappelle, il est également grand prêtre, il est Cohen Gadol et il est roi, hein, c'est lui qui symbolise le mieux cette dualité de fonction entre grand prêtre et roi. Et donc au moment à Soukhot, alors qu'il s'apprête à faire l'office dans le temple, les fidèles sont amassés autour de lui pour dire l'hostilité pour vous donner une idée de l'hostilité que les pharisiens avaient vis-à-vis de lui. Au signal convenu, il lui lance le étrog qu'ils ont entre les mains, il lui lance le étrog. Il le bombarde d'étrog. Donc vous imaginez l'humiliation du roi à ce moment-là, il fait tuer des centaines de personnes en représailles. Mais c'est pour vous dire à quoi on en arrivait à cette période. Une autre illustration de cette hostilité, elle vous est donnée dans le... Vous avez un texte là qui illustre, à la page 3. C'est un extrait de Kiddushin 66a qui relate une discussion entre un représentant pharisien et Alexandre Janet. Alors, le texte dit ça. Ve'aya shemehad ish letz lev rav ve'liyal ve'eleazar ben poira shemo ve'yomer aleazar ben poiria le'yana yameler. Donc ce Eleazar ben poiria dit à Alexandre Janet le roi. Yanaï Ameler, roi Yanaï, l'Ivan Shel Perushim Alecha, le cœur des pharisiens est contre toi. Et un peu plus tard, on lui dit, un peu plus loin dans le Talmud, il est dit, donc un autre sage s'adresse à Alexandre Yanaï, donc le sage s'appelle Yehuda Ben Gedida, et il lui dit, Yehuda Ben Gedida dit Ameler Yanaï, roi Yanaï, Ameler. Roi, Rav Lecha Keter Malchut, est-ce que ce n'est pas assez pour toi la couronne de la royauté? Inar Keter Keuna les Arosh El Aaron, le Keter de la Keuna doit revenir aux descendants de Aaron. Et sous-entendu, je ne vais pas rentrer dans le texte qui est beaucoup plus long après, ton ascendance n'est pas très claire parce que ta mère avait été faite captive à Modiin et on n'est pas sûr que tu sois vraiment de la lignée de Aaron. Donc sous-entendu, c'est déjà bien assez que tu sois roi, tu n'as pas besoin d'être grand prêtre. Vous imaginez un peu le dialogue qu'il y avait à cette époque entre le roi Alexandre Janet et les pharisiens. Et la page de cette, ce passage du Talmud se, se termine en évoquant l'arrivée de Shimon ben Shetar, qui est le frère de Salomé Alexandra, et qui va venir et restaurer le rôle des pharisiens, comme on va le voir un petit peu plus tard. Okay ? Donc pour vous donner un peu une idée des tensions qui fracturent la société juive à l'époque et de l'opposition au roi exprimée par les pharisiens. Pourquoi une telle opposition ? Ben, parce que le roi s'entoure des sadducéens, parce que le roi méprise les pharisiens, parce que le roi donne la priorité à la Torah écrite, mais la parole des sages n'a pas de valeur pour lui, parce qu'il tue ceux qui s'opposent à lui, comme on le voit avec l'épisode à Sukkot, et cette discussion dans Kiddushin se termine mal, parce que là aussi, Alexandre Jannet va faire tuer des pharisiens. On a une société aussi qui est très inégalitaire. À l'époque du Second Temple, le temple est considéré, est non seulement un haut lieu spirituel, mais aussi un haut lieu de la finance, entre guillemets. Beaucoup d'argent transite par le temple, que ce soit par la collecte du Mahatzit HaShekel, les sacrifices, le fait que le temple était un endroit où on mettait de l'argent en dépôt. Donc beaucoup, beaucoup d'argent est entreposé dans le temple, ce qui donne de fait un pouvoir au Kohen Gadol, un pouvoir qu'il a déjà depuis l'arrivée, le retour des Juifs de Babel, et qui se renforce au fur et à mesure avec cette accumulation de richesses dans le temple. Et le Kohen Gadol est proche du pouvoir, alors que ce serait plutôt attendu à ce qu'il soit proche de tout le monde et proche du peuple, mais ce n'est pas le cas. Et donc cette distance entre la fonction de Kohen Gadol, la prise du pouvoir par le Kohen Gadol et les tensions entre les riches, enfin les détenteurs des ressources et le peuple, accentuent les tensions et créent cette animosité envers le roi Alexandre Jannet. Donc voilà un peu en quelques mots ce qui se passe à l'époque de ce roi Hachmonaï de la troisième génération, qui est à la fois roi et grand prêtre, et qui illustre le problème qu'a posé cette fonction. Ce qu'on peut ajouter encore sur cette période, avant de passer à la transition qui a marqué le règne de Salomé Alexandra après Alexandre Jannet, c'est que les Asmonéens ont eu à cœur d'étendre les frontières du pays. Vous avez les cartes qui montrent bien ce qui se passe au fil des années, avec un tout petit territoire à l'époque de Yehuda Maccabi, un territoire qui s'agrandit à l'époque de Yonatan et Shimon, et puis à l'époque de Jean Hyrcan, donc deuxième génération, un territoire qui a encore plus évolué, et sous Alexandre Jannet, on est sur les frontières du Grand Israël, voilà, avec des frontières beaucoup plus largement repoussées. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire de cette période pour parler de cette politique, c'est le fait que les Hachmonaïm, et depuis le début, ont à cœur, bien sûr, de préserver leurs frontières, de défendre le pays contre les risques de réinvasion des Séleucides, qui sont les Syriens affiliés aux Grecs, et ils vont pour cela nouer des alliances avec Rome. Ça va commencer avec Yehuda à Maccabi, qui dès le début va nouer une alliance avec Rome, un traité d'amitié, et ça va se poursuivre avec ses frères. Jean Hyrcan, à son tour, deuxième génération, va lui aussi nouer ses alliances avec Rome, et l'idée étant de bénéficier du soutien d'une puissance émergente qui commence à devenir de plus en plus forte dans le cas où les Séleucides menaceraient de façon sérieuse les frontières d'Israël. Et au départ, tant que les intérêts de la Judée et de Rome convergent, ces alliances se passent sous les meilleurs auspices. Ce sont des traités amicaux qui expriment un certain équilibre. Mais au fur et à mesure que Rome, que les conquêtes romaines avancent, que les forces romaines avancent en Orient et prennent des positions de plus en plus fortes, et que le pouvoir séleucide commence, lui, à basculer, l'allié judéen commence à poser problème aux Romains. Et le traité d'alliance n'est plus vraiment un traité d'alliance équilibré, c'est juste une faveur que Rome consent à une province, à un royaume judéen qu'elle envisage peut-être comme une future province de son royaume. Donc on a une évolution des relations entre la Judée et Rome qui se fait progressivement, avec une situation de relatif équilibre, mais qui évolue petit à petit vers quelque chose qui l'est beaucoup moins. Donc voilà, voilà quelques éléments qui illustrent ce qu'était la politique juive au temps des Hachmonaïm. Et ce que je voudrais ajouter après, c'est que à la mort du roi Alexandre Jeannet, donc il meurt en moins 76, peut-être fort de l'enseignement qu'a représenté, et peut-être fort de cette expérience de ces tensions avec les pharisiens, il va conseiller à son épouse Salomé. Et d'abord, il va d'abord donner le pouvoir à son épouse, Salomé Alexandra. Il va lui donner le titre de reine, donc reine en titre avec l'exercice du pouvoir. Et il va en plus lui conseiller de s'allier avec les pharisiens. Alors que tout au long de son règne, il avait à cœur d'éloigner les pharisiens et d'être plutôt proche des sadducéens. On a d'ailleurs la Gemara Sota qui parle de ce conseil que le roi Alexandre donne à son épouse. Donc, une situation comme ça un peu inattendue et qui mérite quand même d'être relevée, c'est que Alexandre Jeannet, sur son lit de mort, conseille à sa femme, d'abord donne le pouvoir à sa femme, donc qu'une femme prenne le pouvoir à l'époque, c'est quand même assez singulier, même s'il y a des femmes qui ont pris le pouvoir, hein, notamment la reine Cléopâtre, mais dans un autre contexte. Donc non seulement il lui donne le pouvoir, mais en plus il lui conseille de s'allier avec les pharisiens. Et comme Salomé Alexandra ne peut évidemment pas être Cohen Gadol, c'est le fils de Salomé Alexandra et d'Alexandre Jeannet qui s'appelle Jean Hyrcan II qui lui va être Cohen Gadol. Et donc on arrive à ce moment-là de la dynastie des Hachmonaïm à retrouver une division, une séparation entre la fonction de Cohen Gadol et la fonction de roi. Donc ce qui va permettre de retrouver la dualité qui doit s'exprimer dans ces deux pouvoirs. Donc du temps du règne de Salomé Alexandra, on arrive à retrouver une espèce de concorde nationale. Les pharisiens vont reprendre le pouvoir. Salomé va introduire son frère Shimon ben Shetar dans les sphères du pouvoir. Il va devenir responsable du grand Sanhédrin. Il va petit à petit chasser les sadducéens qui étaient maîtres du Sanhédrin et les remplacer par des pharisiens. Et les pharisiens vont imprimer de leur volonté et de leurs exigences la vie juive de l'époque. Des écoles vont être fondées pour favoriser l'enseignement des enfants. Les inégalités sociales vont être limitées. L'argent pour financer le temple va revenir en abondance. Les orphelins et les veuves laissés pour compte après la mort de nombreux pharisiens, après l'extermination de nombreux pharisiens par Alexandre Jeannet, vont être soutenus par le nouveau pouvoir. Et que fait Alexandra par rapport à tout, en plus de tout ça, donc elle donne le pouvoir avec ce pouvoir qui est entre les mains qu'elle donne aux pharisiens, elle tâche quand même d'équilibrer les choses avec les sadducéens pour éviter de créer un conflit de l'autre côté. Et cet équilibre va passer par le fait d'attribuer notamment des villes fortifiées aux sadducéens qui représentent le pouvoir militaire. Elle donne aussi, elle confie à son second fils Judas Aristobule, qui lui est beaucoup plus proche des sadducéens, elle lui confie une campagne militaire pour lui donner une certaine importance. Et donc voilà, elle arrive autant que possible à maintenir une certaine concorde entre les pharisiens et les sadducéens. Et le Talmud évoque la période du règne de Salomé comme étant une période assez heureuse. On a notamment le traité Ta'anit 23 que vous avez en page 5, un petit résumé de ce qu'était le règne de Salomé et la façon dont ça se passait. Donc vous l'avez en page 5. Alors, Shekan Mitzinu Bime Shimon Ben Shetar, She Yardou Laem Geshamim, Belele Reviot, Belele Shavatot, Ad Shenea, Belele Shavatot. Donc, c'est là qu'on trouve autant de Shimon Ben Shetar que la pluie ne tombait que la nuit de mercredi et la nuit de Shabbat. Donc, ce qui est très positif, hein, que la pluie ne tombe que la nuit, c'est le Talmud donc le relève. Ad shenashnu ritim que kilayot veseorim que garaine zetim, de façon à ce que les grains de blé soient comme des kilayot, les grains d'orge seorim que garaine zetim aussi gros que des noyaux d'olive, veadashim que dinare zahav, et les lentilles comme des dinars d'or. Vetsaru mehem dougma les dorot, et ils en ont fait un exemple pour les générations. Donc les sages pharisiens relèvent cette harmonie qui régnait au temps de Salomé Alexandra, à tel point que la pluie ne tombait qu'au moment propice et au moment compatible avec l'activité humaine, c'est-à-dire au moment où on n'a pas besoin de sortir, la pluie tombe, et en plus les récoltes étaient abondantes et charnues. Et les sages donc relèvent ça et veulent prendre des exemples de lentilles qui sont aussi grosses que des dinars d'or comme exemple de ce qu'était l'harmonie à l'époque de Salomé. Alors on remarque qu'il ne cite pas Salomé, Shlom Tzion, il ne la cite pas, il cite Shimon ben Shetar, son frère. C'est un midrash qui cite clairement Shlom Tzion, qui dit clairement du temps de Shlom Tzion et de Shimon ben Shetar. Mais son nom n'est pas cité à cette époque, n'est pas cité dans le Talmud. Donc pour finir avec cette présentation historique, je voudrais juste finir avec, avant de passer à quelques lectures de quelques textes, sur comment se passe la succession de Salomé Alexandra et comment on en arrive à l'époque romaine que on a tous plus ou moins à l'esprit. Eh bien, quand la reine meurt, donc en moins 67, après 9 ans de règne, elle laisse ses deux fils. Le premier, Jean Hyrcan II, qui était grand prêtre, donc qui est toujours grand prêtre, et le second, Judas Aristobule, qui est destiné à devenir roi. Et la situation aurait pu aller comme cela. Mais des intrigues de pouvoir naissent. Un certain Antipater, issu du peuple iduméen, va intriguer auprès de Jean Hyrcan II pour lui dire que c'est à lui d'être roi, et donc le pousser à prendre également la fonction de roi au détriment de son frère. Donc tout ceci crée un conflit de succession entre les deux frères, et qui va mener à ce que, n'oublions pas que Rome, en parallèle, Rome est une puissance qui est de plus en plus forte, qui va mener à ce que les deux frères vont envoyer une délégation chez Pompée, l'empereur, le gouverneur romain qui est pas loin, qui est à Damas, pour lui demander d'arbitrer le conflit de succession entre les deux frères. Et à ces deux délégations, l'une qui représente Jean Hyrcan II, l'autre qui représente Judas Aristobule, va s'en ajouter une troisième, qui en a marre de ces conflits de succession et qui dit à l'empereur, au gouverneur romain, qui dit « Nous, on n'a pas besoin de roi, on veut être dirigé par nous-mêmes. » Donc vous imaginez la scène devant le gouverneur romain que d'avoir ces trois délégations juives qui se présentent et qui demandent d'arbitrer un conflit. Donc on ne sait plus laver le linge sale en famille, si je puis dire, et on va demander l'arbitrage à Rome. Donc ceci va précipiter quand même la catastrophe, puisque Pompée décide... va prendre les choses en main. Il dit, il arrête Judas Aristobule, qu'il considère comme étant un opposant et quelqu'un qui menace politiquement la puissance de Rome. Il va nommer, et c'est l'empereur Rome, le Rome qui nomme Jean Hyrcan II prêtre, enfin qui le confirme dans ses fonctions de grand prêtre, et qui lui donne une fonction politique mineure de gouverneur. Mais la Judée est à ce moment-là, devient à ce moment-là une province romaine. Donc le pouvoir de Jean Hyrcan II en tant que grand prêtre va être extrêmement limité. Cette annexion, cette prise de pouvoir de Rome sur la Judée a aussi pour conséquence de démanteler le territoire de toutes les conquêtes faites à l'époque des Hachmonaïm et de limiter, de laisser portion congrue à la Judée. Et ça va durer comme ça quelques années. Et ensuite, toujours ce même Antipater qui est dans les arcanes du pouvoir va propulser son fils comme roi pour la Judée. Son fils n'est autre que le roi Hérode, que l'on connaît tous, qui a par ailleurs reconstruit le second temple. Et ce roi Hérode était un iduméen, donc issu d'une génération de gens qui ont été convertis par les Hachmonaïm. Et il va prendre le pouvoir en Judée vers moins 40, jusqu'à moins 4, donc son règne va être assez long. Le bilan de ce roi Hérode va être relativement extrêmement mitigé, parce que d'un côté il a consolidé les frontières du pays, il a reconstruit le temple, et de l'autre côté c'était un véritable tyran. Et sous son règne, les tensions entre les Sadducéens et les Pharisiens vont être largement exacerbées. Et pour autant, ce roi Hérode cherchait à s'attirer la légitimité auprès des Juifs, à tel point qu'il s'est même marié avec une descendante des Hachmonéim qui s'appelait Marianne. Les Hachmonéim sont toujours là. Voilà, et puis quelques temps après, la Judée passe sous gouvernance directe de Rome. Rome envoie des procurateurs diriger le pays. On ne sait plus un roi, c'est carrément des espèces de préfets qui dirigent le pays. Ceci va précipiter la révolte des Juifs contre Rome, vers 60, et aboutit en 70 à la destruction du Second Temple. Donc toute cette rétrospective pour montrer un peu le cheminement qui s'est opéré depuis la prise de pouvoir par les Hachmonaïm après Hanouka et jusqu'à la chute, la destruction du deuxième Beth Amigdash et le maintien d'un peu de dynastie Hachmona avec à l'époque de Hérode sous les traits de Marianne, une descendante de cette dynastie. Donc un bilan un peu contrasté de cette période, et comme on va le voir dans les textes, avec une première question qui se pose et que soulève Manitou dans son livre « La parole et l'écrit », où il relève que les Maccabées n'auraient pas dû conserver le pouvoir. Ce que dit Manitou, c'est que, en introduction, avant d'aborder d'autres textes, c'est que le roi n'a pas le droit d'être grand prêtre, le grand prêtre n'a pas le droit d'être roi. Il ne doit pas y avoir confusion du pouvoir civil et de l'autorité sacerdotale. Le rôle du pouvoir civil, c'est la direction de la société dans la vie terrestre, la conduite éventuelle aussi des affaires militaires. Le Kohen Gadol marque la direction de la société pour la vie du monde à venir. Donc il est nécessaire de séparer ces deux fonctions, ne pas les faire fusionner en une seule personne, parce que sinon, cette dualité ne peut pas s'exprimer. Et Manitou rappelle que les piliers de la société juive, ce sont quatre piliers importants qui sont évoqués d'ailleurs à travers le terme Mishkan. C'est même Malchut, Shin, Shofet, Kaf, Kohen et Nun, Navi. Donc ces quatre piliers sont nécessaires au bon fonctionnement de la société juive et à la préservation de la Torah et de la transmission dans cette société juive. Un autre élément qui nous est donné, c'est dans Bereshit, avec la bénédiction de Yaakov à son fils Yehuda, lorsque Yaakov s'apprête à mourir, vous l'avez également en page 5. Ce que Yaakov dit à son fils, c'est « Lo yasur shevet miyuda », c'est que le sceptre ne s'éloignera pas de Yehuda. Et les commentateurs ont bien sûr largement interprété ce passage, à commencer par Ramban, qui part sur une stricte interprétation de ce passage en disant que les Hachmonaïm n'auraient pas dû prendre le pouvoir parce que le pouvoir politique doit revenir à des descendants de la lignée davidique. Eux-mêmes étaient des Kohanim de la lignée de Lévi, ils n'avaient pas à prendre le pouvoir. Et Rambam est très strict dans cette lecture de critique des Hachmonaïm. Il va jusqu'à dire que c'est pour cela que les fils Hachmonaïm ont été tués lors de combats. Yehuda, Yonatan, Eleazar un autre ont été tués lors de combats. Et Rambam, très strict, va jusqu'à dire que c'est en raison de cette faute profonde qu'ils ont commis en étant roi et grand prêtre. Ce que Ramban ne considère toutefois pas, c'est que ce n'était pas la première génération de Hachmonaïm qui cumulait les fonctions. Eux, ils étaient juste dans la fonction de grand prêtre un peu par défaut vers la fin, au moment de Yonatan puis Shimon, et encore sous condition, et encore de façon provisoire. Celui qui a vraiment pris la fonction de roi et de grand prêtre en titre, c'est Alexandre Janet, c'est la troisième génération de Hachmonaïm. Mais Ramban et les commentaires qui accompagnent ce commentaire de Ramban disent peut-être qu'à l'époque où Ramban a écrit, on est au XIIe siècle, n'avait pas la connaissance historique et les détails que l'on a maintenant. Voilà. C'est des questions qui restent ouvertes, hein. Je ne prétends pas apporter toute la lumière là-dessus. Alors, un autre texte intéressant pour aborder cette question de la souveraineté juive pendant cette période des Hachmonaïm et le problème de ce cumul de fonctions de grands prêtres et de rois, c'est ce texte de Rambam du Mishne Torah que vous avez en page 6. Je vais juste lire la fin. Veoshiu Israël, donc à la deuxième ligne avant la fin. Veoshiu Israël miyadam, ve'emidu melech minakohanim, ve'chazra malchut leIsrael, yeter al mataim shana ad churban hasheni. Donc, ce que Rambam souligne dans ce texte, c'est que tout d'abord il dit que les Hashmonaïm ont repris le pouvoir et que ceci a permis de restaurer la souveraineté juive, que ceci a permis de garantir que l'on puisse pratiquer les mitzvot et étudier la Torah sans être inquiété parce que le pouvoir est juif. Et il reconnaît au Hashmonaïm le mérite d'avoir restauré Malchut l'Israël, une royauté en Israël, Yeter al-Matayim Shana, plus de 200 ans, à Urban Hasheni, jusqu'au Urban Hasheni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Et ce Matayim Shana, venant de Rambam, est extrêmement pose question. Et c'est la question qu'on s'est posée avec Avi quand on a étudié ça, c'est que si on regarde bien le règne des Hashmonaïm, c'est pas 200 ans. Ça a commencé en moins 165 et ça s'est terminé, disons, en moins 63 quand Pompée rentre à Jérusalem. Hyrcan II, à ce moment-là, il est, bon, il est grand prêtre, mais il n'est pas roi. Donc disons c'est plutôt 100 ans. Pourquoi Rambam parle-t-il de 200 ans? C'est étonnant. Et en plus de ça, pourquoi est-ce qu'il met dans le même sac des Hashmonaïm qui ont été assez intègres dans l'exercice du pouvoir, qui ne se sont pas arrogés le titre de roi, et d'autres qui se sont arrogés le titre de roi? Alexandre Yanaï était roi et grand prêtre, mais la première génération de Maccabim n'avait pas le titre de roi. Et ce n'est que quelques-uns d'entre eux qui sont devenus grands prêtres, et encore parce qu'on leur a demandé de le faire, parce qu'il n'y avait pas de grand prêtre potentiel valable pour tenir la fonction. Mais en tout cas, Rambam a l'air de mettre tout le monde dans le même panier, et en disant, voilà, on a restauré la souveraineté juive pendant 200 ans, et ce qui semble dire qu'il va bien plus loin, puisqu'il irait jusqu'au Urban Hasheni, donc il engloberait aussi Hérode, et il engloberait les procurateurs romain, Agrippa, bon, lui c'était plutôt un bon roi, mais en tout cas il considère de la même façon toute cette période de 200 ans, ce qui pose quand même question. Et on se demande pourquoi Rambam a été dire ça, parce que si Rambam écrit 200 ans, il ne le dit pas par hasard. Alors, on a trouvé quelques textes encore pour compléter un peu cette question qui se pose à la lecture du texte de Rambam. Toujours page 6, vous avez le passage du Rav Kook, ce passage qui vient du Rav Kook, qui ne s'exprime pas tant sur la période que sur la fonction elle-même. Que nous dit le Rav Kook? Rav Kook masbir she'echan iluhem shnei tafkidim shonim bemautam. Il y a deux fonctions différentes en même temps. Akeuna i aneaga ruchanit shematara leafitz da'at Hashem ba'olam. La keuna, c'est la conduite spirituelle qui a pour but de rapprocher, de faire régner en fait la connaissance de Dieu sur le monde. Veilu ha'am lucha noada le'anig et ha'am miprina chomrit, tandis que la royauté a pour objectif de gérer les affaires matérielles, les ovil milchamot verpoulé, donc de conduire les guerres, etc. Veholzot kedei le'avi et ha'neagatam shel hashmonaim, et de tout cela pour comprendre ce que les hashmonaim ont fait. Masbir à Rav Kook, le Rav Kook explique chez Beofen Harig, Besha, chez Ayevanim Baou, Bamilchamata, Makefula, Milchama Goufanit ou Milchama Rouchanit. Là, c'est extrêmement important. En ce temps où les Grecs sont venus et se sont imposés, on avait en fait une guerre double avec les Grecs. On avait à la fois une guerre spirituelle avec l'influence de l'hellénisation et une guerre militaire avec cette influence qui s'est transformée en coercition militaire quand les Grecs ont vu qu'ils ne pouvaient pas influencer tout le peuple juif. Et donc, cette guerre avec cette double oppression grecque. Et que face à cette double oppression grecque, donc Neged Amadoud, il fallait une force supérieure. Donc Neged Amadoud Aruchanit Shel Israël. Ayat Sorer Lekar, Akeuna Shel Hashmonaim, Milchom, Milchamazo. Il fallait des Hashmonaim qui sont Kohen pour porter les armes et mener cette guerre. Et quelque part, ça s'intuit assez bien, cette idée de dire qu'il fallait des Hashmonaim qui soient prêtres, mais qui endossent le vêtement militaire pour combattre les Grecs, qui représentaient une oppression double, à la fois spirituelle et militaire. Et donc, Rav Kook quelque part, donne raison aux Hashmonaïm de ce qu'ils ont fait. Il dit les moules milchama kefula face à cette guerre double, Rouhanit Bechomrit, donc de l'esprit et de la matière, Ayat Soher Lehamid Manhigut, il fallait faire émerger des guides qui portent à la fois la Keuna et la royauté en une seule main. Et donc, le Rav Kook légitime cette double fonction de Kohen Gadol et de roi que portaient les Hashmonaïm. Bon, là, on ne rentre pas forcément dans les détails qui était vraiment roi, qui ne l'était pas. Mais en tout cas, c'est l'exercice du pouvoir, sans doute, au sens large. Et je voudrais encore finir avec cette lecture qui est du Rav Yonatan Aibashit, qu'on a trouvé sur Internet, sur une page de commentaires du Daf Ayomi, et qui est assez moderne, je trouve, pour expliquer ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Teshuva Acheret, une autre réponse. Mashiva Ach Yonatan Aibashit. Quand la Kohanim, Hem Shilshelet Aaron, tous les Kohanim sont le Shalshelet Aaron de la descendance d'Aaron, Veishto Shel Aaron, Elisheva, Haïta Achot, Narshon, Mishevet Yehuda. Mais Elisheva, la femme de Aaron, était de la tribu de Yehuda, et elle était la sœur de Narshon, Ben Aminadab, celui qui s'est jeté dans la mer Rouge pour l'ouvrir. Velachen, Lo Hashchou, Sadikim, Hashmonaïm, Bazé. Et en ce sens, les Hashmonaïm, ces sages, ne se sont pas corrompus. Qui aime Mitzad Imam et Yehuda? Parce que du côté de leur mère, ils sont de la tribu d'Yehuda. Ben Mishpacha Akeuna, Meurav, Yesod Kavuam, Mishpacha Tamalchut, ou Keshayat Sorer Bidevar, Akoanim Gam Malchut. Et en ce sens, voilà, ces Hashmonaïm sont issus d'une double filiation. Cette descendance d'Aaron possède une double filiation par le père et par la mère. Et en ce sens, les Hashmonaïm qui sont issus de cette descendance possèdent quelque chose de la lignée davidique en eux qui les autorisait à exercer le pouvoir. Voilà. Donc voilà tous ces textes que je voulais amener, puis j'en ai fini avec cette présentation. Et donc pour dire, en fait, voilà, c'est qu'on a une vision idéaliste, en fait, de la royauté issue de la lignée davidique et issue donc de la Beracha de Yaakov à son fils en disant le sceptre n'y aura pas de toi. Mais on a une réalité historique et contextuelle que les commentateurs décryptent et à laquelle ils apportent des réponses. Rambam considère positivement le fait que les Hashmonaïm ont exercé le pouvoir, ça a duré 200 ans, parce que ça a permis de restaurer la souveraineté juive sur la Judée et que ça a permis de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah sans être inquiété. Le Rav Kook est également dans cette lecture positive. Rambam, lui, est beaucoup plus sévère avec les Hashmonaïm. Voilà ces quelques éléments historiques et ces éléments de texte pour poser les questions, hein. Il ne s'agit pas forcément d'avoir les réponses, mais poser les questions et les problématiques que représente cette fonction de grand prêtre et de roi à l'époque des Hashmonaïm, avec tout ce que ça révèle comme réalité de la société juive de l'époque et que ça nous apporte encore aujourd'hui. Et pour finir, d'ailleurs c'est une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est que le livre des Maccabées, qui est une des sources de l'histoire des Maccabées et de Hanouka, certaines interprétations de ce livre des Maccabées conduisent à dire que si ce livre n'a pas été canonisé, c'est parce que les Hashmonaïm ont fauté en étant roi et grand prêtre à cause de cette confusion de fonctions, et c'est pour cela que ce livre-là n'a pas été canonisé dans le Tanakh. Donc ça, c'est effectivement une lecture qui va un peu dans le sens de Ramban, dans le sens que voilà, il n'aurait pas dû faire cela. Mais il y a peut-être quelque chose qui relève aussi de l'actualité, c'est que peut-être si le livre des Maccabées n'a pas été canonisé, c'est peut-être parce que ce problème de cette dualité de fonction de guide spirituel et de guide politique qu'ont exercé les Maccabées en prenant sur eux-mêmes les deux fonctions, c'est peut-être quelque chose qui est toujours d'actualité. Et avec en plus le contexte de l'hellénisation qui est aussi toujours d'actualité puisque nous sommes dans un exil gréco-romain mais aussi grec, et donc c'est peut-être pour cela que cette histoire est bien sûr passionnante et qu'on n'aura jamais fini de l'étudier. Voilà, là, je vous remercie et puis bien sûr on peut échanger les questions. Donc, bien sûr, s'il y a des questions.
Si j'ai bien compris, le rap coupe et...